On aurait pu tenter d'avoir les ingénieurs de la Freebox, mais la préparation de l'émission sur le réseau Free Mobile s'est retrouvée bloquée par la politique de com très cadrée de Free. Or, recevoir les communicants ne nous intéresse pas, c'est pas le but de l'émission CPU. Nous avons dû donc nous rabattre sur les journalistes qui pratiquent cet opérateur internet comme la communauté en tant que site d'information spécialisé, mais pas aveuglément fan. Nos usuels suspects sont donc Infacet Grunt, journaliste pour les Échos du Net, contributeur sur Radio FMR dans CPU et aussi le samedi à midi dans Crossover, spécialiste manga toute taille de bonnet et maître en bière artisanale.
Oui.
Ça sent la promo, ça.
Ah non, je vais pas faire de promo encore.
Non, non, ça, je veux dire, ça sent la montée en grade.
Oui, c'est vrai que là, je suis éligible à Master S Bière.
Bravo. Et par satellite, nous a rejoint Johan Ferré, journaliste de freenews.fr, fondateur de cafégaming.fr et point de vue social, il coproduit une excellente chaîne vidéo avec Laurent Charrier et j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Est-ce que ce serait pas point de vue social ?
Ah, je me disais aussi.
C'est peut-être ça.
C'est peut-être ça. CPU, carré, petit, utile. Pour commencer, donc une obligation du CSA, il faut que vous me citez trois autres FAI qui ont une box.
Livebox d'Orange, Bbox de Bouygues, la box de SFR, la box de la Poste Mobile, la box du CIC et du Crédit Mutuel.
Donc en clair, la box, quand on est vers le grand public.
Ah oui, c'est le point d'entrée. C'est un point d'entrée. La plupart des offres, il est devenu très rare de trouver une offre avec juste Internet.
Free a-t-il vraiment inventé le triple play, donc l'accès Internet, la téléphonie et la télé over IP?
Inventer le triple play, c'est un peu difficile à dire, à définir ce que c'est. Qu'est-ce que le triple play? Bon, c'est une facture. Ce serait plus exact de dire qu'ils ont introduit, en tout cas, le concept de box triple play. C'est, comme tu disais en introduction, c'est le fait de sortir une box qui a déjà, c'est bizarre, un port pour brancher une deuxième ligne téléphonique dessus. Parce qu'à l'époque, ils disaient deuxième ligne. Hein, la première ligne, c'était la ligne France Télécom. Et un boîtier Péritel, tu disais. Il y avait une prise Péritel qui au début ne servait à rien d'ailleurs sur cette Freebox. Mm-hmm. Il y avait effectivement cette connectique là qui a servi presque un an plus tard, je crois. Enfin, en tout cas, c'est plutôt ce concept là qu'ils ont introduit en fait. C'est vraiment l'idée d'avoir la box et la capacité hardware d'ajouter des services. C'est plus ce côté là.
Parce qu'en fait, tu avais déjà pour le triple play, tu avais déjà des offres qui existaient chez des concurrents, Neuf ou Wanadoo à l'époque, où tu avais d'un côté une box internet, téléphone, et de l'autre côté, tu devais prendre un décodeur chez CanalSat DSL ou TPSL. En gros, c'était les services de satellite, mais sur un boîtier, sur un décodeur TV. Un truc qui est assez marrant, c'est que Free a réuni tout ce matériel-là, le décodeur et la passerelle, enfin le modem routeur. Et finalement, ils se sont séparés un peu plus tard, avec la Révolution.
Eh oui, c'était avant. C'était la V5.
La V5, pardon.
Donc, il y avait déjà le câble télé qui a proposé la téléphonie et après Internet et qui passait déjà par une set-top box. Donc, la différence de Free, c'était vraiment ça. C'est qu'ils avaient d'abord réuni ou qui...
Si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que depuis le câble, ils avaient d'abord démarré avec la TV. Mmh. Ensuite, ils se sont dit, on va pouvoir ajouter de la téléphonie. Et puis, il y a Internet qui est arrivé derrière. Et les grands spécialistes comme Comcast aux États-Unis, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient un boîtier de chez Motorola et il y avait un port Ethernet qui était déjà disponible, mais seulement ils ne l'ont pas activé. Et c'est uniquement quand le concept un peu de Vox est arrivé depuis la France, ils se sont dit, mais si on activait ce putain de port qui ne sert à rien, du coup, ils se sont dit, on va vous proposer une solution pour avoir de l'Internet par ce biais-là.
Sachant que donc le câble, c'est une technologie broadcast, c'est-à-dire ils envoient toutes les chaînes, donc il ne faut pas les requêter effectivement au serveur à chaque fois.
Tout à fait.
La contrepartie, c'est que en fait, tu reçois les trames Internet des autres.
Ça, c'est du filtrage. Ça, c'est. Ils se sont amusés, là, je peux t'assurer.
Ils ont mis du temps à filtrer, si je me souviens bien.
Oui.
Yoann ?
Oui, non, c'est exactement ça, en fait. La différence de Free, c'est ça. C'est en fait. Et puis, tout simplement, c'est d'apporter ces services-là sans augmenter le tarif. Hein. On parle à l'époque, hein, évidemment, c'est autre chose maintenant. Mais en tout cas, à l'époque, l'idée, c'était t'as payé un prix qui correspond à Internet, donc tu payes juste Internet, mais avec, on va t'apporter d'autres choses. Et voilà, c'était ça la différence. C'est-à-dire que je pense que sinon, les gens se seraient pas auraient pas manifesté l'intérêt pour ces services-là si on leur avait fait payer en option. Alors que, si c'est offert, par curiosité, on va brancher la télé, on va regarder ce que ça donne.
Aussi, ce qu'a fait Xavier Niel, ils ont amené pas que la télé et les chaînes payantes, ils ont aussi hacké le système, ils ont eu un rabais de TVA. Ils ont voulu gratter sur les câbles opérateurs, leur astuce.
Ah oui,
ça c'est clair.
Ça, de tout temps, Free a été assez malin de ce côté-là, c'est clair.
Qui est de combien les taux de TVA entre les deux?
Alors, à l'époque, c'était 5,5.
Ouais.
La TVA, et on était encore à 19,6. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2011, il y a eu le grand changement des TVA, où le 19,6 est devenu 20%, et où la TV n'était pas considérée comme un élément, urgent, nécessaire. Et du coup, ils sont montés sur un taux de TVA intermédiaire qui est 10%. Et autant te dire que cette année-là, je me souviens encore, les mecs, ça râlait parce que le truc qu'avaient fait les opérateurs, la plupart des opérateurs, c'était de dire, on monte à 10% et puis on laisse le tarif comme ça. Mais le tarif TTC, au final, il montait de 1 ou 2 euros à peu près. Mais ils ont dû faire machine arrière.
Comment font les fournisseurs d'accès français pour que ça soit si peu cher? Les box, notamment, est-ce que c'est le volume commandé? Est-ce qu'ils achètent des box qui sont designées par d'autres boîtes en marque blanche?
Alors, pour Free, c'est simple, c'est eux ils font tout chez eux, ça, il n'y a pas de souci. Pour les autres, en fait, ils font des commandes. Ils font des commandes auprès de constructeurs comme Sagemcom, comme B1, comme... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque? Moi, je me souviens sur Thomson. Si, Thomson.
Tu veux dire que même Orange, qui se vante de créer des produits, en fait, leur box télé, elle est.
La box TV, c'est du Sagemcom, c'est du Thomson. Les boîtes, c'est Sagem. Ça a même été ZTE. Tu vois, il y avait même du chinois à travers. Les derniers, ce sont que des Sagemcom. Mais en fait, souvent, c'est des modèles qui sont déjà disponibles, mais on refait juste le design. T'avais les premières Livebox, par exemple, j'avais la référence, c'était Fast 3302. C'était un modèle que tu trouvais chez Orange pour la Livebox Sagem à l'époque. Et tu le trouvais chez Belgacom, chez un concurrent qui a été ravalé après en Alice. Mais après, si tu veux, t'avais juste ce modèle et ensuite tu le déployais à mort. T'en avais un autre. Ah oui, si t'avais un modèle, il a fait la 9 box, la CGTel box, la Alice box et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Non, c'était un petit FAI, un truc à la con qui existait à l'époque, mais tu avais exactement c'était le même modèle mais avec des calendres différents en fonction de l'opérateur. Tu en avais une qui était blanche, c'était pour 9, et la noire c'était pour CGTel, c'était pour donner l'idée.
Ah oui, quand même. Oui.
Et au-delà de ça, il y a vraiment le côté, ça c'est ce que tu décris, c'est pour le hardware, et c'est vrai qu'en termes, il y a vraiment ce qu'on appelle l'effet forfait, c'est-à-dire que Free par exemple va proposer un gros débit, plein de services, mais en pariant très fortement que tout le monde ne va pas tout utiliser tout le temps et en même temps. Donc voilà, c'est vraiment cet effet-là qui va jouer et qui permet de proposer des tarifs qui restent quand même relativement réduits.
Quel est le lien entre Free et VLC, le logiciel de lecture de vidéos en open source?
Ah, alors VLC, ça a été très utilisé à une époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un service qui s'appelle le Free Player.
Oui.
Ouais,
oui, je m'en souviens, ouais.
C'était une bricole qui passait par VLC pour diffuser des vidéos sur Freebox, Freebox V3 et même sur V2, il me semble que ça marchait d'ailleurs.
V2, V3, ouais.
Ouais, et du coup, Free a été amené à beaucoup s'intéresser au développement de VLC et probablement à y participer. J'ai pas regardé exactement ce qu'avaient fait les devs Freebox à l'époque.
Parce que je crois qu'ils ont un des deux fondateurs de VLC dans l'équipe de Free. Hein.
Ah, c'est ça que tu... Ouais. Oui.
Oui, c'est vrai.
Oui, effectivement. Ouais. Après, je serais incapable de te donner plus de détails sur ce qu'ils ont fait ensemble ou quoi, mais oui, effectivement.
Free, Bouygues, SFR revendent-ils leur techno de centrale téléphonique, enfin ce qu'on appelle NRA, NRO, la box et tout ça, vers d'autres FAI? Est-ce qu'il y a une French Tech qui s'exporte de ce côté-là? Ou pas du tout?
Pas du tout.
Pas du tout.
Là, on est d'accord. La plupart, en fait, c'est plus l'inverse. On récupère plutôt des technos qui sont déjà existantes et qui arrivent de grands équipementiers comme Ericsson.
Donc, il n'y a que Free qui a une nouveauté. Dans la fortune personnelle Xavier Niel, il y a un opérateur monégasque. Il y a aussi un FAI suisse. Ça ne s'exporte pas encore.
Alors, je rappelle qu'il a aussi un FAI irlandais récemment. Là, par contre, c'est Iliad qui est aussi dans le lot. Mais non, si tu veux, le truc là, c'est que même eux, même Free, pour les DSLAM, c'est du matériel d'autres constructeurs. De constructeurs. Non, ce côté-là, on va dire, dans le central téléphonique, en fait, c'est plus l'inverse. Ils ont pioché des technologies chez des constructeurs. On est plutôt dans ce modèle-là. Oui, en fait, tu vas avoir peut-être 2-3 serveurs DSLAM qui sont communs à SFR, Orange, Bouygues, Deutsche Telekom, AIR, O2, enfin... On va pas tous citer tous les clients, quoi.
La durée de vie quand même des box côté client est impressionnante. La Freebox Révolution a été lancée en décembre 2010. La Freebox V5 HD, actuellement Crystal, elle date de 2006. Quelle durée de vie on peut estimer donc de la nouvelle Freebox qu'ils ont lancée en décembre 2018, donc la Delta?
Alors, Xavier Niel s'est exprimé un petit peu sur le sujet et il a expliqué qu'en gros, à demi-mot, qu'il pensait pas que ça allait durer 8 ans, que ça allait pas en tout cas durer autant que la Freebox Révolution. Mais je pense que lui-même n'était pas pensait pas que la Freebox Révolution allait durer 8 ans, cela dit. Donc, c'est un peu par nécessité que la Freebox Révolution a duré aussi longtemps. Et objectivement, elle est obsolète sur plein de points. En fait, ce qui se passe, c'est que a priori, ils vont continuer à faire un système avec une Freebox principale et ce qu'ils appellent une Freebox intermédiaire, comme là, ils avaient fait la Freebox Mini 4K, par exemple, qui avait servi de Freebox intermédiaire. A priori, ils partent sur ce même schéma. Ils sont déjà, d'après ce que j'ai compris, en train de travailler sur une Freebox intermédiaire qui devrait sortir d'ici 2 ou 3 ans. Alors, avec les délais Free, ce sera probablement un peu plus. Mais en tout cas, c'est le cycle qui se sont fixés. Donc, si on se fie à ça, la prochaine Freebox principale, dans 6 ans peut-être un peu moins, c'est dur à estimer.
Parce que quand même, moi, j'ai encore une révolution et je suis impressionné combien cette box est véloce, marche très bien sur une télé tant qu'on reste en format HD.
C'est ça.
Par rapport à d'autres opérateurs, moi je tombe des nues quand même que les opérateurs n'aient pas essayé de faire mieux depuis. Entre Bouygues qui avait fait un truc en flash qui était hyper lent et horrible, qui est resté longtemps, Orange qui met un temps monstrueux pour zapper entre les chaînes.
Alors ça a été corrigé, ça c'est des correctifs.
SFR s'arrêtait pas de planter, c'était hallucinant.
Ah ouais, je me souviens encore de l'inauguration de l'évolution où j'ai fait planter devant les boss de SFR, j'étais mort. Mais...
C'est une super présentation devant les journalistes.
Oui. Non, mais si tu veux, le truc là, c'est que ils achètent, si tu veux, des décodeurs, des trucs comme ça, qui ont déjà une certaine puissance, qui ont déjà un certain gabarit. Mais si tu prends par exemple le décodeur Evolution de SFR, ils ont patché mais à mort ce décodeur pendant des années. Là, maintenant, ça y est, ils ont une version qui est un peu plus stable. Et je vais te dire, c'est ce qui est utilisé.
Patché logiciellement ou matériellement ?
Il y a eu du matériel, il y a eu du logiciel. En évolution, on est à une V4, un truc comme ça, pour les dernières qui sont proposées. Mais en logiciel, ils ont vraiment amélioré. Mais par contre, le truc qu'il y a, c'est que il n'y a plus la capacité, c'est de la HD, les mecs veulent de la 4K. Donc du coup, le renouvellement pour les décodeurs, c'est à peu près tous les 4 ans. Chez tout autre opérateur confondu que Free, c'est à peu près tous les 4 ans où tu as une nouvelle génération de décodeurs. Habituellement, c'est accompagné d'une nouvelle génération de box. Mais après, c'est vraiment, tu vas avoir un renouvellement, mais en fait, tu as l'impression que c'est tous les 2 ans. Mais en fait, c'est simplement entre, il y a actuellement, tu as une box principale, la majeure, celle où il va y avoir tout, et tu vas avoir la bon marché. Et en fait, ils renouvellent comme ça tous les 4 ans, à peu près.
Non, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Moi, c'est vrai que c'est surtout le software qui fait la différence. Parce que quand on regarde la Livebox 4, par exemple, qui, sur le papier, si on regarde vraiment les spécifications, elle serait capable de faire tout ce que fait la Freebox Revolution et même bien plus. Mais en développement logiciel, autant sur l'interface télé qui est une cata, enfin, qui est vraiment.
Si tu veux, le truc qu'il y a, c'est que sur la Livebox, il faut vraiment différencier la Livebox V4 et le décodeur TV V4.
Ouais. Ouais, bah on peut parler, si tu veux, de l'interface web, c'est pas beaucoup mieux. Hein.
Ça, je te confirme.
Alors, ça tombe bien qu'on parle de web. Pour donner une idée de la durée de vie, la Freebox Revolution a été présentée donc en décembre 2010 et elle devait à l'époque théoriquement pouvoir utiliser les sites Google TV. Je le sais d'autant plus que au moment de la présentation, j'étais en train de travailler sur un projet de site de Google TV pour une grande chaîne internationale. Un format qui a été abandonné en 2014 et qui maintenant totalement oublié. Et heureusement, tellement qui est pourri à coder d'ailleurs. Ce qui fait une partie du succès de la com sur la nouvelle box de Free par rapport aux autres opérateurs, c'est son côté pionnier ou la rareté du changement de matériel.
Là, c'est vraiment, enfin, sur cette box actuellement, c'est vraiment plus le côté premium voire luxe, j'ai envie de te dire. C'est vraiment là-dessus qu'ils orientent la communication, l'enceinte des Vialet, vraiment le côté, ouais, regardez, vous pouvez mettre 4 disques durs dans le serveur. Enfin, c'est vraiment là-dessus qu'ils mettent l'accent, quoi, beaucoup plus que précédemment.
Si tu veux, moi, c'était vraiment, j'avais vraiment plus l'impression d'avoir une communication à la Altice. C'est dire le truc. C'est-à-dire qu'on te met tous les trucs premium, machin bidule, les trucs. Moi, plus le truc avançait, plus je voyais la fibre 10 gigas, l'enceinte, le truc. J'étais là, mais ça va coûter combien au final? Et quand t'arrives, tu vois le prix, tu fais ouais, pas mal. Mais bon, Free, c'est le troublion. Il a tout fait justement pour que ça soit pas cher. Et là, t'as un truc qui est vraiment premium avec des options qui, à ce moment-là, étaient obligatoires, du style le pack sécurité ou le disque dur. Mais là, t'es en train de te dire, mais j'ai encore Iliad en face, je dois prendre l'attention ou ils ont tout piqué chez Altis.
Ouais, mais la différence, c'est que c'est pas des options qui se rajoutent dessus de la même manière.
Voilà.
Mais ça a changé entre-temps sur la com. Ceci dit, Free est toujours à la bourre en déploiement fibre par rapport à Orange et SFR. Alors, promettre la fibre à 10 gigabits, est-ce qu'ils vendent-ils pas un petit peu trop de rêves?
La fibre à 10 gigabits, j'ai envie de te dire, déjà, moi chez moi, déjà, j'ai la fibre à 1 gigabit. Déjà, je n'arrive jamais à les saturer. Actuellement, c'est impossible. Aucun serveur ne m'envoie assez pour que je sature mon gigabit.
Si,
10 gigabits, mais à quoi ça peut bien servir?
Alors, pour le 1 gigabit, si tu as moyen de la faire pourrir, c'est en Ethernet et tu envoies sur du Steam.
Ah, même Steam, c'est pour... Mais voilà, enfin, pour moi, 10 gigabits...
Si tu veux, c'est en gros, c'est le seul moment où tu le bourres, c'est au moment du téléchargement d'une application ou d'une mise à jour Windows. C'est le seul moment où tu vas vraiment le bourrer.
Oui.
Mais en dehors de ça, tu vas consommer même pas la moitié.
Et justement, de ce côté-là, Free a des offres, mais pas d'offres pour les professionnels. C'est que des trucs qui sont taillés pour les,
alors,
pour les utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a toujours une box télé. Avec autant de débit, il y a de quoi, par exemple, faire tenir une petite web agency avec 5-6 stagiaires à côté du patron, quoi.
C'est prévu. Ils ont annoncé qu'ils comptaient se lancer sur un marché des entreprises. Alors, je me souviens plus quel horizon ils avaient communiqué. Je crois qu'ils avaient dit assez large. Ils avaient dit d'ici 2020, on se lancera sur un marché des entreprises. Mais en tout cas, c'est prévu. Ils comptent vraiment faire la guerre à Orange et SFR sur ce terrain-là.
Faut se souvenir que lorsqu'ils avaient racheté Alice à l'époque, Telecom Italia avait une offre.
Oui, c'est vrai.
Ils l'ont maintenu pendant un petit moment jusqu'à ce que le site disparaisse.
Comme tout chez Alice, en fait.
Tout à fait.
Vous écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous parlons des box des opérateurs Internet, notamment les Internet fixes, avec Johan Ferré, Infested Grunt, journaliste spécialisé dans le sujet. Autant de fonctions, mais pourquoi, enfin, je regarde toutes tes fonctions, notamment le NAS, le fait que tu puisses télécharger en BitTorrent sûrement des trucs Lego, mais pourquoi Free n'y propose pas de l'auto-hébergement dans ses box? Genre les services des chatons de Framasoft, c'était pas si compliqué avec un très gros NAS, non?
Ah, mais on ne sait pas en fait, on n'a pas la réponse concrètement, on ne sait pas pourquoi ils ne se lancent pas sur ce terrain-là. Je pense que c'est un truc un peu niche, mais en même temps, ça leur a jamais fait peur de proposer des trucs un peu niche, surtout côté serveur. J'ai pas de réponse spécifique là-dessus. Je pense que ça a été mis sur la table à un moment donné. Après, est-ce qu'ils l'ont pas fait sur Révolution, peut-être par peur de saturer un peu trop le processeur? Dans ce cas-là, peut-être qu'on le verra arriver sur Delta. Je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Mais bon, je pense que les devs seraient très intéressés pour proposer ça.
Moi, je me dis, ils ont peut-être peur de qu'on fasse concurrence à Online.
Ah. Et oui, c'est vrai qu'ils sont aussi hébergeurs, oui, dans le même groupe. En tout cas, donc on a des équipements qui sont capables d'être serveurs et même on peut accéder à distance pour récupérer des fichiers et tout ça. Mais est-ce que c'est bien sécurisé? Par exemple, il y a eu l'affaire du remote access qui était accessible chez Orange, c'est-à-dire que on pouvait voir les box de ses voisins et déconnecter des services. Plus récemment, il y a eu les modems de Deutsche Telekom qui ont été piratés en Allemagne. Je crois que ça a été 1 million de clients offline avec une bête variante du botnet Mirai. Est-ce que vraiment ils ont sécurisé?
Alors, pour la Free, là, je sais pas pour Free. Moi, d'habitude, je regarde souvent mes modems, donc pour ce genre de truc. Donc, pour Free, je te laisse Lyon sur ce coup-là.
Très sincèrement, j'ai pas de réponse là-dessus. Ils ont un historique qui est pas dégueulasse sur le sujet, en tout cas. Mais de là à savoir s'ils sont 100% protégés et si vraiment ils sont à l'abri de tout type d'attaque, ça c'est très compliqué à dire, évidemment.
Ouais, parce que c'est vrai qu'ils ont, ils ont pas eu de fuite majeure par rapport aux 3 autres opérateurs qui étaient tous au bout d'un moment tombés dedans. Sur Remote Access.
Là, au show Hello, Orange a présenté une
appli. Je précise, on enregistre une semaine après la présentation de Free et hier a eu lieu le show de l'opérateur Orange, donc où Infested était présent.
Et il se trouve qu'il y avait une application justement qui va être mise à disposition des abonnés Orange, mais je pense que ça peut être ouvert à d'autres services, où en fait on va pouvoir tester la sécurité de nos équipements internes au réseau. Et éventuellement mettre en quarantaine un appareil qui va être verrouillé ou on a une suspicion.
Question de l'IoT et tout ça qu'on a abordé déjà dans cette émission, quoi.
Voilà, et en fait, ils vont mettre à disposition une application qui va nous permettre de tester tous ces équipements et voir s'il y a une vulnérabilité connue, voire même tester la robustesse des mots de passe.
Et ça veut dire qu'il faut leur donner les mots de passe, alors.
Non, justement, ils vont juste tester.
Ah, ils vont faiser.
Ouais.
Waouh.
Alors, je sais pas trop comment fonctionne l'application. Sur la démonstration, comme d'habitude, ça a planté. Donc, du coup, j'ai pas pu voir toute la démo, mais en tout cas, du peu que j'ai vu, une petite vulnérabilité qui était sur un vieil équipement dans un coin, le machin l'a détecté et quand tu voyais le truc, tu fais ok, oui, non, le truc, Mirai, il a dû y passer dessus sans aucun souci. Mais ça, je l'attends, j'attends vraiment de voir la version finale et quand ce sera fait, bah, autant te dire que je vais visiter des gens pour aller voir si ça marche.
La différence, donc, ce qu'a amené Free donc fin de 2018, c'est que maintenant l'appareil, on ne le loue plus, au moins avec donc la Freebox Delta, avec donc les super enceintes, des lavettes et tout le reste. C'est que l'utilisateur va l'acheter. Et donc, si l'utilisateur devient propriétaire des appareils, est-ce qu'ils sont réutilisables chez d'autres opérateurs? Et est-ce qu'on a enfin un redécouplage entre les modems et les réseaux?
Alors, sur le redécouplage, pas vraiment, parce que concrètement, t'es quand même toujours obligé d'acheter ton player Delta à 480 € pour t'abonner à l'offre Delta. Donc, le découplage, il n'est pas encore tout à fait là. En revanche, c'est vrai que du coup, comme tu achètes le boîtier, ils ont été obligés de travailler à l'indépendance de ce boîtier par rapport au réseau Free. Et très clairement, de ce qu'on a entendu, et ça reste encore à vérifier par des tests, Le player Delta est très très indépendant sur n'importe quel réseau. Tu peux te servir d'à peu près toutes ces applications en dehors des applications purement Freebox, c'est-à-dire Freebox TV, Freebox Replay.
Pour info, tu avais encore il y a quelques temps, tu pouvais acheter la Neufbox, tu pouvais acheter la Livebox, tu pouvais t'en servir sur d'autres réseaux, mais par contre, le seul truc que tu ne pouvais pas avoir avec, c'était ni la téléphonie, ni la TV. Uniquement de l'internet, tu avais un routeur de base.
Donc ça marchait vraiment comme modem.
Ça marchait vraiment comme modem, ouais. Fallait juste leurrer le mot de passe parce que tu avais FTI ou 9 slash, fallait juste leurrer le truc en rajoutant ce 9
machin. Ah oui, mais du coup, c'est encore un peu de la bidouille quand même.
Ouais, mais si tu veux, c'était que tu revenais avec le système des anciens modems, on va dire, où tu étais obligé de taper FTI slash ton identifiant.
Et du coup, donc sur le réseau de Free, est-ce qu'on peut ne pas utiliser le modem de Free ? Utiliser un modem ADSL, XDSL ou fibre optique standard, avec par exemple un très gros routeur derrière ?
Moi, aucun problème. Il me semble que j'ai déjà vu des gens qui utilisaient des modems, des vieux modems sur le réseau de Free. J'ai pas vu de spécificité. Seulement, tu n'as pas les services accessoires.
Et puis pas accessoirement aucune documentation non plus, quoi. C'est vraiment débrouille-toi.
Alors, je suis retombé sur une doc de Free. Je sais pas si elle fonctionne encore, mais apparemment il y a un doc pour comment se connecter à leur réseau ADSL.
Il me semble qu'il y a encore sur l'assistance, ouais. C'est vrai.
C'est vraiment sur une recherche sur un moteur recherche. Je suis tombé par hasard dessus parce que c'est vrai que ça se trouve pas dans l'arborescence normale.
Par contre, pas fibre optique, tu avais dit ADSL, mais pas fibre optique.
Fibre optique n'était pas documentée, mais fibre optique, je crois qu'il y a 4 standards et il n'y a pas de mot de passe, donc a priori...
C'est surtout que c'est t'as un ONT, si tu veux, t'as un module, c'est lui qui fait la transformation, et le seul truc, c'est que c'est la box qui amène l'information au module.
C'est-à-dire, c'est quoi ce module ? C'est
le modem fibre qui te le transforme en Ethernet derrière.
Ok.
Et en fait, le gros des informations concernant les connexions, les choses comme ça, c'est la box qui va le transmettre au module.
Ok, d'accord. Le fait que l'Apple TV, la Google TV ou Android TV n'est pas décollé en France, est-ce qu'il y a un rapport finalement avec ces offres qu'ont fait les opérateurs avant que ces set-top box arrivent ?
Ouais, non, mais oui, c'est évident. C'est évident parce que quand tu regardes dans d'autres pays, déjà, ça marche beaucoup mieux. Donc, de toute évidence, c'est qu'il y a un truc en France qui fait que il y a une sorte d'exception. Et au-delà de ça, quand on se sert un peu d'Android TV ou d'Apple TV, il y a des trucs où on se dit, ah, je reviendrai bien à ma Freebox quand même, parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que chacun a ses qualités et ses défauts. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tous les opérateurs ont plus ou moins tenté à un moment donné de se lancer sur Android TV. SFR, je crois qu'ils ne font plus rien à SFR,
si,
mais
si,
ils
si,
sont
si,
clairs.
Si, si,
ils ont encore.
Si tu veux, il y avait un premier décodeur. Qui est mouru avec le rachat par Numéricable.
C'est à celui-là que je pensais.
Il y avait celui-là, mais récemment, à cause de RMC Sport, ils ont relancé un nouveau boîtier qui s'appelle le Connect TV, qui utilise Android TV. Donc du coup, ils ont relancé, mais c'est parce qu'il y avait un besoin extérieur de faire de l'OTT.
Et Bouygues a un boîtier... La Miami Box, effectivement, avec aussi la reconnaissance vocale sur la télécommande. Y a-t-il encore un intérêt à une box opérateur télé avec les box OTT ou les services comme Amazon Prime, Netflix, dispo sur les consoles de jeux ou les télé connectées ? Est-ce que franchement, ça a un intérêt encore de faire une box télé ?
Alors oui, parce qu'en fait, tu vas avoir un service TV, comme la Freebox TV ou la TV d'Orange ou SFR TV, où tu as toutes les chaînes qui sont réunies au seul endroit. Là où tu vas avoir un Apple TV, un Android TV, tu vas devoir aller télécharger chaque chaîne. MyTF1, France TV, 6play, tu vas devoir te prendre chacun individuellement. Et quand tu as envie de zapper, le truc normal quoi, tu vas devoir changer d'application aller sur l'application correspondante. Après, tu vas avoir des services qui vont regrouper comme Molotov. Mais il faut d'abord que tu accèdes immédiatement à Molotov. Là, l'avantage, c'est que tu allumes ta Freebox Révolution, là, et tu es directement sur la chaîne que tu as regardée la dernière fois.
Molotov, dont au moment où on enregistre, puisqu'on est le 13 décembre, il y a des rumeurs de rachat par Orange, et Molotov, donc, est une espèce est une espèce d'opérateur, de câble opérateur télé, en fait, et exclusivement télé, virtuel, c'est-à-dire qu'on peut le consulter sur son téléphone en 4G et tout le reste. Donc c'est démenti.
Moi, le Stéphane Richard, lors de la présentation, ils ont parlé un peu comme ça des services et ils ont dit, moi, Molotov, à part en cocktail.
C'est, avec les gilets jaunes, c'est peut-être pas une bonne idée.
Non, je me suis dit à ce moment-là.
Je pense que chez Orange, quand même, il y en a qui seraient rouges s'ils apprenaient ça. Il y a encore, je cite un internaute du nom de Corben, il vaut mieux s'équiper en Android TV ou Apple TV, se prendre un abonnement Netflix ou Molotov plutôt que de galérer avec ces trucs. Ça marche mieux, ça prend moins de place et au final, ça coûte moins cher sur la durée.
C'est ce que je disais tout à l'heure, oui et non en fait. C'est-à-dire, ça, en fait, ça dépend beaucoup de l'usage que tu vas faire de certaines choses. S'il se trouve que ton usage correspond plus ou moins à ce que Free ou autre a déjà intégré dans sa box, par exemple, il est fort possible que ça te revienne moins cher de passer par la dite box. En revanche, si t'en as rien à faire de Netflix et que toi tu préfères t'abonner à, je sais pas, un autre service concurrent, même si c'est improbable.
Canal Play. Pardon.
Églou.
D'où l'improbabilité. Mais...
joli.
Mais du coup, oui, ça dépend vraiment si les offres de l'opérateur vont proposer ce qui toi t'intéresse. Donc si tu veux. Le côté moins cher, je suis pas 100% convaincu. Au-delà de ça, il y a quand même le fait que une box, faudrait regarder. On a parlé de la durée de vie. Une box Android que tu achètes toi-même, je sais pas combien de temps tu la conserves avant qu'elle soit obsolète, par exemple, et que tu sois obligé d'en racheter une du coup.
Oui, parce que c'est les applications au final qui la rendent obsolète pour la box elle-même.
Oui.
Enfin, pour ses boîtiers.
Puis le fait éventuellement qu'un jour tu vas plus avoir de mise à jour dessus, que tu vas peut-être plus pouvoir profiter des nouvelles fonctions machin et que tu auras envie d'en changer. C'est aussi ça le côté obsolète.
Ensuite, tu as aussi, comme il a dit, tu as aussi le problème des contenus parce que tu vas chercher des contenus sur Netflix, mais tu as peut-être des offres avec l'opérateur où tu vas avoir OCS, Bein Sport, je pense moi à SFR Play. Le Altice Studio, c'est un service qui est propre au réseau de SFR et Altice et qui finalement te fournit aussi des contenus qui sont particuliers mais qu'il faudra que tu attendes un à deux ans avant d'arriver. Je sais plus, Sirène, je crois que c'est sur Sister ou un truc comme ça, tu vois. Faut vraiment attendre 2 ans, tu vas avoir une période d'exclusivité chez un opérateur et ensuite tu vas avoir. Mais si tu prends The Walking Dead, tu l'as d'abord chez OCS et ensuite ça arrive un peu plus tard sur TMC. Ou sur TF, je ne me souviens plus sur laquelle il est maintenant.
Je crois que c'est sur C8. Game of Thrones, pardon. Ceci dit, on va faire une pause. Et je te rappelle une chose, Infested, c'est que Johan est dans la même salle que toi, donc tu n'es pas obligé de parler de lui à troisième personne. ça augmente son ego de manière Alain Delon, c'est assez pénible. On revient après cette coupure. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Johan Ferré et Infested Grunt, journaliste spécialisé en fournisseur d'accès Internet, pour parler justement des offres Triple Play et surtout du principe mégalomaniaque, ou plutôt mégalithe, la box ADSL. 15 ans après le lancement, est-ce que le modèle des box est-il en train de s'essouffler ?
Non, en fait, en France, ce qu'il y a de vraiment spécial, c'est que le concept des box, c'est vraiment quelque chose qui est typiquement français, voire européen. Tu ne trouveras pas ce principe de box ailleurs. Tu
vas toujours aux États-Unis.
Aux États-Unis, tu vas avoir Altice, mais avec le câble, le truc là, c'est que tu vas avoir via le décodeur TV, mais tu vas souvent avoir un service à côté, un boîtier indépendant. Mais le truc qu'il y a, c'est que moi, quand je regarde, on passe plus de package. Que de box réellement, du fait que il faut pouvoir changer les technos, les trucs comme ça. Mais si tu veux, le concept de box tel qu'on le connaît nous en France, je suis sûr que ça va perdurer parce qu'on a mariné là-dedans. Si un opérateur ne propose pas de box, là par exemple, il y a les deux banques CIC et Crédit Mutuel qui se sont lancées dans la box. Ils ont été obligés de démarrer directement avec la box. Ils n'ont pas imaginé de démarrer avec juste Internet et la téléphonie.
Johan ?
Je pense que commercialement, c'est effectivement compliqué de réussir sans proposer au moins une offre box. Après, du point de vue de l'utilisateur, il y a peut-être plus de choses qu'on peut faire actuellement si on décide de prendre un accès Internet pur, quoi, vraiment juste le tuyau. Effectivement, grâce aux Android télé dont on parlait tout à l'heure, les services OTT sont bien meilleurs qu'il y a quelques années. On parlait de Molotov, il y a aussi MyCanal qui est très très bon. Donc, il y a... Non, franchement, il est très très bon. J'ai entendu le petit rire.
Bah oui, parce qu'il coule.
donc il y a ce côté-là qui fait que la box, elle est un peu moins indispensable en fait. Mais ça va être chez des débrouillards, quoi, chez des gens qui ont envie de payer moins cher, quitte à bidouiller un petit peu.
Free a longtemps conduit les tarifs ADSL vers le bas. Ils ont fixé le tarif emblématique 30€ par mois en 2002. Et il est encore en vigueur 15 ans après. Là, ils les augmentent, mais nos voisins européens ont-ils de meilleurs tarifs que nous ?
Alors non. Non, franchement, quand tu regardes nos voisins, je vais déjà parler de nos voisins immédiats, Belgique, Espagne, Suisse ou Italie. Alors, en Suisse et en Italie, on a déjà le foutoir avec Salt, avec justement les opérateurs, ça commence à se retravailler, les trucs comme ça. Il faut savoir une chose, c'est que en Italie, Telecom Italia a encore la main sur l'équivalent de l'ARCEP local. Donc du coup, c'est encore un peu le bordel. Ils ont des offres box. Tiscali, à l'époque, avait commencé à faire des offres un peu box comme il le faisait à la française. Il se sent joyeusement rétamé. Et ensuite, les offres, si on reprend l'offre de 30€ telle que tu le connais avec juste Internet, les trucs comme ça, en Italie, il faut que tu comptes 45.
D'accord. Je voudrais juste te demander, on a un ami commun, Chris O'Brien, qui a vécu très longtemps aux États-Unis et qui participe des fois de temps à autre à l'émission CPU, qui était au cœur de la Silicon Valley et qui était correspondant spécial au sein d'Apple. Ce qui s'est passé il y a 4 ans quand il est arrivé en France.
Alors, il y a 4 ans, donc Chris vient en France et Xavier, tu me dis j'ai un ami américain qui voudrait s'installer en France. Je lui ai présenté les catalogues des opérateurs. À la base.
Je crois, ça a commencé par un fight sur Twitter.
Ça a commencé un petit fight sur Twitter.
Ah, mais... quadruple play, non, eux, ils sont à 37€.
Voilà. Si tu veux, je lui ai présenté vraiment les offres. Et il m'a dit, tu vois, cette offre-là, le truc de Free à 30€, moi, aux États-Unis, pour avoir la même chose, sans y être, je mets 100$ sur la table. Avec Comcast, avec Verizon, avec tout ça, je mets 100$ sur la table. Quand j'ai vu son regard.
Ouais, il disait, mais you're talking voilà. Science fiction.
Pour eux. Justement, j'ai pas pris l'exemple américain. Justement, c'est pour ça que dans mon exemplaire, j'ai pas pris l'exemple américain parce que eux, c'est la folie, quoi. Et en plus, le truc qu'il y a, c'est que quand tu vois les offres que propose Altice via SFR, je retrouve un peu ce qui se passe aux US.
Donc c'est quand même fou que ça n'a pas augmenté avec l'inflation, qu'on reste toujours les moins chers de ce côté-là.
On est un ou deux pays, si tu veux. Après, il faut prendre en compte des pays comme la Suède ou là, par contre, ils ont bien développé le réseau de fibre optique, ce qui fait que leur avantage, c'est que maintenant, ils sont mieux équipés et donc ils peuvent proposer plus facilement le service. Et bien entendu, le grand premier, ça reste le Japon.
Oui. La fibre à 100 mégas, il l'a proposé dès 99.
Voilà, mais actuellement, tu as des offres à 10 gigas. Il y a Nathalie qui m'avait ramené à une doc. J'ai mis un mois pour le traduire, mais ça, c'est un petit kiff personnel. Mais le truc qu'il y a, c'est que quand j'ai vu le tarif, j'ai fait, mais ce sont des malades. Ils te proposaient un bouquet grandiose, ils te proposaient une offre mobile, ils te proposaient même un tarif électricité inclus dans dans l'abonnement pour même pas 50€.
Ah ouais, ok. Free a donc lancé un forfait plus cher et ils vendent un matériel très cher avec. Il faut quand même reconnaître que c'est un matériel haut de gamme, mais ils le vendent quand même. Est-ce que maintenant, Free ne serait pas en train de devenir trop cher ?
Trop cher, c'est un peu... Pour moi, la Freebox Delta, elle n'est pas trop chère, si tu veux. Elle est à 50€ par mois. Le vrai souci, ça va plus être le fait de devoir payer sa box à côté qui va te rajouter 10€ par mois pendant 4 ans et du coup, ça passe à 60€, qui commence quand même à piquer pas mal. Après, si tu compares ça, par exemple, à Orange, qui me semble, fait toujours un forfait Livebox, je ne sais plus comment ils l'appellent, c'est plus Jets.
En fait, la Up, elle est au niveau de la Play. Déjà, tu descends d'un cran.
Donc eux, enfin, pour le même prix, clairement, ce qu'ils te proposent, ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que la Delta est trop chère? Je suis pas sûr. En revanche, est-ce que Free a encore de quoi répondre sur le terrain des offres moins chères? C'est là que ça devient plus compliqué, parce qu'à côté, ils ont présenté la Freebox One qui est à 40€ par mois, 30€ la première année et puis après 40. Et franchement, je vois pas ce qu'elle propose qui justifie de mettre 40€ par mois pour le coup. Elle intègre Netflix, mais à part ça.
Si tu veux.
Enfin, c'est vraiment, c'est pas agressif, quoi.
Quand t'envoies la Freebox One, et à part si on écarte Netflix, la Freebox One, maintenant, tu peux retrouver exactement quasiment les mêmes composants avec une Livebox V4 et le nouveau décodeur 4K, qui est le truc de base d'Orange, qui est sur le 30€ d'Orange. Donc, le seul truc qu'il y a de nouveau, mais qui finalement est une retour aux sources, c'est la boîte unique.
Quelles sont les demandes que vous avez notées des clients après la présentation qui semblaient être, pour certains, assez déçus? Johan, je crois que tu as une liste d'ailleurs.
Ouais, comme je disais, le prix de la box, c'est quand même un gros souci. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont très attirés par le côté serveur de la Delta, avec le Super NAS, le 10 Go en fibre, l'agrégation XDSL 4G pour ceux qui n'ont pas la fibre. Tout ça, c'est un truc qui plaît énormément. Il y a plein de gens qui se disent, mais moi, je veux payer 50€ par mois pour ça, mais par contre, je veux pas du player, il sert à rien. Enfin, j'en ai pas l'utilité, je veux pas payer 480€ pour ça. Ça, c'est vraiment la plus grosse plainte, et de très loin, qu'on a pu lire, quoi. C'est-à-dire vraiment qu'on parlait du côté découplage, et non, là pour le coup, il n'y a pas de découplage du tout. Tu es vraiment obligé de passer par là pour avoir le côté serveur qui plaît beaucoup à certains.
En 2006, la Freebox V5 introduisait la possibilité de vidéocaster en direct vers les autres abonnés de Free. À l'heure de Twitch, YouTube Live, Facebook Live, étonnamment, Free n'est pas là. Ils auraient pu revenir dans le game.
On va dire plutôt que le game, il pouvait pas combattre. Là, tu as vraiment une audience qui est mondiale, alors que là, tu es face juste à une diffusion entre Freenote.
Oui, mais ils auraient pu justement adapter leur matériel pour s'interconnecter, puisqu'ils proposent déjà Twitch en réception, ils proposent YouTube en réception.
Je sais pas s'il y a une demande forte que ça. Très concrètement, quand ils ont lancé leur service, Twitch ça n'existait pas, YouTube Live ça n'existait pas, Facebook Live ça n'existait pas, et c'est pour ça qu'ils l'ont lancé. Je crois que tu commençais tout juste vaguement à voir arriver Justine.tv, qui était l'ancêtre de Twitch, mais vraiment le live c'est quelque chose qui n'était quasiment pas du tout présent, et c'est pour ça que le service a très bien marché à ses débuts dans une petite communauté de Freenote, et c'est pour ça que les Freenote progressivement sont allés vers les autres plateformes. Non, je pense que Free est plus du tout pertinent sur ce terrain-là.
Qu'en est-il des API? Peut-on par exemple installer un autre service de reconnaissance vocale qu'Alexa, puisque par exemple il y a des services qui existent qui permettent de faire la gestion des commandes en local au lieu que ça parte sur le cloud?
Il y a déjà un assistant autre qu'Alexa, l'assistant Freebox, donc que tu peux appeler en disant OK Freebox, voilà. Et ça, c'est un truc qui a été, voilà. C'est là qu'on entend que j'ai pas la box chez moi, hein, pour le moment.
D'où l'effet spécial.
et effectivement, ça a été développé en interne par Free. Est-ce qu'on peut soi-même intégrer son propre assistant? Non. Par contre, on peut choisir de n'avoir que l'assistant Freebox si on veut pas passer par Alexa, parce qu'on n'a pas envie d'être écouté par Amazon. On peut choisir de désactiver tous les assistants parce qu'on trouve que ça sert à rien. Ils ont été assez complets là-dessus. Ils ont mis un switch pour pouvoir couper le micro physiquement sur la box. Ils ont implémenté leur propre reconnaissance du mot-clé Alexa. Ils l'ont mis en open source d'ailleurs, il me semble. Enfin, ils ont vraiment fait les choses assez proprement. Je pense que c'est un peu un gage de bonne volonté. Ils savent qu'il y a des gens qui vont être effrayés par le côté Alexa, justement.
Et l'interrupteur coupe physiquement le micro, d'après ce que j'ai compris. Enfin, c'est un relais optique, ouais. mais du coup, ça coupe vraiment la ligne et pas uniquement désactive la fonction.
Après, pour ce qui s'agit d'Alexa, de ce que j'ai vu, j'ai pas pu avoir la bête en main, mais c'est en fait, quand on fait appel à Alexa, en fait, on fait appel à OK Freebox et ensuite il donne l'information vers Alexa.
D'accord.
J'ai exactement la même chose chez Orange avec le Jingo. C'est le Jingo qui gère le principal, mais dès que lui n'a pas la main,
il donne le relais à Alexa.
D'accord. Alors, okay. Non, c'est vraiment deux assistants séparés pour le coup.
Pour le coup, c'est vraiment.
En fait, la seule base commune, ça va être le bout de code qu'ils ont développé pour la reconnaissance du mot-clé. Mais d'accord. À partir du moment où tu prononces Alexa, c'est envoyé sur Alexa.
Oui, non, mais c'est ça.
Tu parles de qui
là? Oui, mais je veux dire, ça.
Tu parles de Free, okay. Là.
Oui, il parle de Free.
Ouais, pardon. Ok, donc c'est bien
et
ça.
Et Jingo, on n'a pas compris encore exactement ce qu'ils veulent faire avec leur partenariat avec Alexa.
Ouais, d'ailleurs, c'est ça que je comprends pas. Orange, donc, ils fabriquent n'importe quoi. Un Pico projecteur, une console de jeu, des téléphones. Ils construisent même un téléphone qui fait fax en 4G avec papier thermique, couleur 3D. Mais ils sont pas capables de faire leur propre box. Je comprends pas la logique de cet opérateur.
Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Livebox, en fait, le matériel, c'est Sagemcom ou ZTE, ou enfin peu importe, mais par contre, le firmware, c'est eux qui le gèrent. C'est à Lannion que ça se déroule.
D'accord.
Et pour ce qui s'agit de la TV, c'est à Blagnac.
Oh, punaise. c'est à côté. Hein. Free a lancé vraiment le triple play, donc on l'a dit, en 2002. Très vite, d'autres opérateurs qui sont lancés les ont doublés en proposant aussi la téléphonie mobile. Il a fallu que Free devienne un opérateur mobile pour pouvoir arriver au même niveau. Maintenant, ensuite, il y a eu SFR qui a intégré la presse, donc proposé le quintuple play. Free vient donc de répliquer avec le sextuple play. Internet, téléphone, télé, mobile, presse, agent de sécurité. Manque l'eau, l'électricité. Est-ce que, franchement, ça ne va pas un peu trop loin dans le couplage?
Déjà,
est-ce que tu as regardé la brochure tarifaire de la Freebox Delta?
Oui.
Ouais.
moi oui,
mais lui.
Parce que niveau couplage, c'est un truc où on te présente. Alors c'est bien, t'as un Netflix qui te coûte 6€ par mois, t'as TV by Canal qui te coûte 25€ par mois ou je sais plus exactement combien.
C'est ça, c'est 25.
Et après ils te mettent une énorme remise sur voilà. Tout ça. C'est vraiment, c'est pas très lisible, quoi. Après, je doute pas, encore une fois, que ça va intéresser certaines personnes qui ont envie vraiment d'avoir une offre assez luxueuse, assez complète par défaut. Mais en termes de lisibilité, quand on bosse sur des sites internet, c'est l'enfer de parler de ça, quoi.
Ouais, mais d'un autre côté, on couple tellement. Par exemple, t'as Bouygues Immobilier qui construit des immeubles d'habitation, qui propose à l'achat ou à la location. La banque CIC Crédit Mutuel qui propose des offres ADSL avec la location de fleurs et l'assurance de la voiture que tu peux préacheter chez eux. Est-ce qu'on ne va pas vers des couplages tellement forts des offres qui va devenir au bout d'un moment impossible de panacher si l'Europe ne tape pas du poing sur la table?
Le truc, c'est que la plupart des couplages, si tu veux, elles sont d'une grande logique. C'est-à-dire que là, c'est que si tu prends Internet, téléphone, TV, mobile, c'est le télécom. Tu rajoutes la presse, mais c'est parce que la presse est venue sur le numérique. Donc du coup, comme c'est un abonnement numérique, tu peux le rajouter, aucun souci. La sécurité, ça passe par la ligne téléphonique. La prochaine étape, moi, je la vois plutôt vers l'électricité, vers l'énergie, parce que c'est deux composantes qui sont nécessaires. La bagnole, autant, oui. C'est vraiment pas lié sauf un seul cas, c'est la carte SIM qui va être nécessaire dans la bagnole pour que l'assistant accède au GPS, accède à tout le réseau. Mais en dehors de ça.
Donc ça, c'est négocié en gros par les fabricants.
Voilà, mais si tu veux, c'est ce couplage-là. Il paraît logique parce que c'est un univers qui sont très proches. Par contre, avec le fleuriste, c'est plus du service annexe, c'est plus des choses comme ça. Mais si tu prends la sécurité, en 2014, tu avais Orange et SFR qui se battaient à coups de promo pour imposer leur boîtier de sécurité avec Home Life d'un côté et Home by SFR de l'autre. Et tu avais quoi? Tu avais un pack à installer, tu avais un abonnement à souscrire pour obtenir de l'assistance, des trucs comme ça. C'était en option, de temps en temps c'était offert avec la formule premium ou une promo de Noël, mais en dehors de ça, c'était vraiment des trucs qui étaient à part et c'était vraiment si on en avait vraiment besoin. Là, le problème qu'a la Delta et son décodeur Devialet, c'est que t'as tout d'un truc qui est d'un bloc qui est contenu et tu peux pas séparer l'intégration, là elle est trop forte.
si tu veux. Là, on est vraiment sur un truc qui est vraiment trop fort. Et le pack sécurité, moi, les premières offres, c'était, tu avais 99 euros de frais de mise en service, où tu avais tout ça, mais si tu enlevais le pack sécurité, si tu enlevais le disque dur, c'était que 10 euros qui étaient remboursés sur la facture. Non, de base, tu étais obligé de te prendre ces packs à la con que tu voulais pas, quoi, en gros. Et on t'en remboursait juste de 10. Là, depuis hier, je crois que c'est depuis hier où ils ont changé, où là maintenant, si tu prends le pack, ça te coûte 50 euros. Si tu prends le disque dur, ça t'en coûte 49. Ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens c'est.
Oui, c'est un truc comme ça.
Hier, puisque donc on enregistre le 13 décembre, je le rappelle encore, 2018, pour ceux qui nous écouteront dans deux siècles. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que les box ADSL soient dans les mesures d'audience opérées par Médiamétrie. Je crois que ça a arrivé à partir de 2010. De nos jours, SFR Analytics Live, une offre professionnelle de mesures d'audience en télévision via le parc d'abonnés grand public de SFR. Orange et SFR revendent les données de trafic web de leur réseau mobile à Médiamétrie. Ça, c'est assez peu su, d'ailleurs. Le nerf de la guerre d'intégrer Netflix et la VOD, n'est-ce pas aussi la possibilité de pouvoir mesurer et de pouvoir justement vérifier en fait quel est le niveau d'usage de cette consommation par rapport à la consommation télé dite linéaire?
Bah, si tu veux, on a un changement de paradigme de consommation. D'ailleurs, Xavier Niel l'a bien expliqué dans sa présentation. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, maintenant, les gens regardent de moins en moins la TV directement sur le téléviseur. Ils sont plus enclins à regarder, mais en replay ou avec des services à la demande. Du coup, ça, ce sont des mesures qui ne peuvent pas être prises sur de la TNT ou sur les réseaux des box. Donc, il fallait que le Médiamétrie accède déjà pour leur propre pour le direct. Ils étaient obligés de avoir accès à ces informations-là. Mais maintenant qu'il y a ce changement de paradigme dans la consommation, on utilise beaucoup plus la VOD et on l'utilise pas que devant la télé. On la regarde dans le bus, on se fait un film dans le train. On a toutes ces consommations-là.
Ou à vélo, pour les livreurs.
Oui, pas faux.
Ou les taxis, j'en ai vu un encore hier. Voilà.
Et il se trouve que tu as justement, mais le problème, c'est que tu peux pas le mesurer, sauf si tu le vois, parce que réellement, quand on prend une vidéo, quand on prend un replay, en fait, on fait un acte d'achat ou de location. Donc du coup, ça c'est comptabilisé dans un peu comme les SMS plus, les trucs comme ça, c'est comptabilisé dans un endroit. Il faut le récupérer, cette donnée. Tu es obligé de donc passer des accords avec les opérateurs pour justement accéder à ces éléments-là. T'as pas d'autre choix. Si tu veux faire de la mesure de TV maintenant, il faut que tu aies le direct et le replay.
Je vais terminer parce que quand même, du coup, l'interview est tellement longue, je pense que là...
On va couper.
Il y aura la version longue sur Internet.
D'accord.
Et si vous entendez ce message, c'est que vous écoutez la version longue, donc on peut dire des conneries qu'on n'a pas le droit de le dire avec le CSA. TF1 enculé, comme dit Hanouna. Non, on n'osera pas.
Alléluia. On touche pas Hanouna.
Oui. J'ai découvert le site Hanouna Live People.
Pitié.
Quelle horreur. Je suis vraiment tombé bas. Johan, Infaced, chacun donc de vous deux travaille sur un des sites. Donc il y a Free News pour Johan et toi. Donc il y a une multitude de sites, mais surtout EchoDuNet.net. Vos sites affichent de la publicité.
Ah non.
D'accord. Une sortie de Freebox, c'est beaucoup de rentrées publicitaires pour toi, Johan ?
Ouais, alors très clairement. Surtout que, faut remettre dans le contexte, ça fait quand même très longtemps qu'on l'attend, quoi. Donc, si tu veux, là, l'actu Free, ces derniers mois avant la sortie de la box et avant toutes les rumeurs autour de la sortie de la box, c'est vraiment le calme plat. C'est, tiens, il y a un nouveau téléphone qui est sorti sur la boutique. Voilà. Tiens, enfin, donc voilà. Donc c'est pas ça qui attire les foules.
Il y avait aussi le changement de passer de l'engagement, de promo avec des engagements. T'avais que
ouais,
ça.
Ouais, bah après, c'est toujours la même chose chaque semaine, quoi.
Voilà.
non, c'est, si tu veux, si tu ressens le côté blasé, c'est parce que clairement, c'est pas le genre de truc qui t'attire un lectorat, fidèle et c'est vraiment il faut qu'il y ait à un moment des grandes sorties comme celle-là pour faire enfin clairement si on n'avait pas si on n'avait pas ça je sais pas quoi enfin oui les rentrées publicitaires sur ce genre d'événement sont très importantes et après c'est quand même sur un certain temps c'est-à-dire que là depuis ça fait un peu plus d'une semaine que la Freebox a été présentée notre courbe redescend assez peu en fin de compte tous les jours les gens viennent pour voir ce qui se passe est-ce que les migrations ont commencé tiens est-ce qu'on peut faire ça avec la box qui viennent pour se renseigner voilà c'est sur un certain temps je pense qu'on va en ressentir les effets peut-être sur plusieurs mois je dirais
D'où l'importance pour 01.net de dire que la Freebox sera la semaine prochaine depuis 2 ans. Est-ce que néanmoins vous êtes impacté par le filtre anti-pub que Free a mis en place sur sa Freebox pour faire pression sur Google ?
Ah non, du tout, du tout.
Toi, tu t'en fous, mais...
j'ai quelques liens d'affiliation. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que un peu comme le fait Apple sur l'affiliation, je ne sais pas si ça a été ton cas pour toi aussi sur Free News, c'est que on a depuis qu'ils sont mis à l'abonnement avec engagement, on a de l'affiliation qui a été qui est arrivée chez Free. Avant, ça n'existait pas.
Ah, Free propose de reversement maintenant.
Oui, maintenant ils le font. Mais le seul truc, c'est que actuellement, ce n'est réservé que pour 3 box: la Crystal, la Mini et la Révolution. La One et la Delta, tu oublies. Par contre, peut-être. Un peu quoi, si tu veux, Apple le
et
fait.
Il y a quand même des gens qui s'abonnent à ces offres-là.
Oui, il y a des gens qui passent par ce biais-là.
Non, non, mais maintenant, alors que vient d'être annoncé.
Oui, parce que des gens sont déçus, justement, comme il l'a dit précédemment, des tarifs de la One et de la Delta, et qui se disent, bah, on peut toujours prendre la Mini 4K ou la Révolution.
Donc, c'est des gens qui changent d'opérateur, vraiment, et qui reviennent là-dessus, quoi.
Après, je sais pas pour toi, moi, c'est.
Yoann ?
Ouais, non, moi après, je t'avoue que tout ce qui est lien d'affiliation, tout ça, je regarde assez peu ce qui s'y passe, donc je peux pas te dire dans le détail. Sur le filtre anti-pub, non, je crois que quasiment plus personne ne l'utilise. Ça a été un gros souci pendant quelques jours, à l'époque où il l'avait activé par défaut sur toutes les Freebox, et où on a pleuré parce que nous, notre lectorat, c'est quand même un pourcentage assez élevé de Freenote, on va pas se mentir. Donc on avait des revenus pub quasiment équivalents à zéro pendant une semaine.
Ah merde.
Mais non. Ah oui, mais oui. Et mais depuis non, ça va mieux. Ça, tout le monde a oublié cette fonction, je crois.
Ok. Yoann, merci beaucoup de nous avoir rejoints par satellite, fibre optique et tout le reste.
Merci à vous.
Infoset Grunt, merci beaucoup d'être venu un jeudi à la place d'un samedi.
Oh, c'est pas grave, hein, tu sais. C'est juste de la lecture en moins, c'est tout.
Voilà, cette interview, l'intégralité sera publiée sur le site cpu.pm parce qu'elle a duré plus longtemps que prévu et donc elle a été enregistrée le 13 décembre 2018, donc une semaine après l'annonce de Free, le lendemain de l'annonce d'Orange que Free ne voulait pas trop assombrir. Et je ne sais pas si SFR et Bouygues ont prévu des offres en béton de leur côté.
Non, pas encore, de ce que je vois, non, pas encore.
En tout cas, merci. C'était encore une fois vraiment un immense plaisir d'avoir fait ce débat façon chaîne info qui essaie de meubler.